Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue en direct de la Porte de Versailles, en direct du Salon des maires et des collectivités locales sur Radio Imo et Radio Territoria. Et place à cette séquence avec un récap global côté paysage, ce que le salon dit des attentes des élus, des priorités de végétalisation et des leviers concrets pour faire la ville plus vivable. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Darmet. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Vous êtes le directeur des affaires institutionnelles de l'UNEP, donc l'Union Nationale des Entreprises du Paysage, et vous êtes également secrétaire général de l'Observatoire des Villes Vertes. Alors, petit rappel, l'Observatoire existe depuis 10 ans.
Absolument, il a été créé par Ortis, oui. L'association des responsables d'espaces nature en ville des collectivités, donc les jardiniers et paysagistes agents des collectivités locales, ils sont à peu près 80 000 en France, et l'UNEP, donc qui est l'équipe de France, on va dire, des jardiniers et paysagistes, qui représente l'ensemble des entreprises du paysage qui sont au nombre de 33 500 et qui réunissent 140 000 actifs dans tous les territoires. On a coutume de dire que c'est la première force vive de la végétalisation et de la renaturation. Et voilà, c'est plus de 220 000 personnes qui se consacrent au quotidien pour les citoyennes et les citoyens à la création et à l'entretien de parcs, de jardins, de végétalisation du bâti, de génie écologique, de gestion du patrimoine arboré et même de reboisement, de plantations et de soins aux forêts. J'en oublie, il y a une vingtaine de métiers qui sont répertoriés. En gros, toutes les relations entre la nature et la ville, qu'on soit dans une petite commune ou dans une grande métropole, ce sont les jardiniers publics et privés. Et l'Observatoire des Villes Vertes, comme son nom l'indique, regarde, révèle les pratiques, mais aussi des tendances.
Et donc, met en avant les villes qui jouent le jeu, j'imagine.
Alors, il y a deux types, en effet, de production de l'Observatoire. Il y a d'une part les enquêtes menées tous les 6 mois auprès des directions nature en ville des collectivités. Et donc là, ça permet d'avoir des chiffres sur des phénomènes de société. Je dis bien phénomènes de société parce qu'au fond, au-delà d'être une mode ou quelque chose de sympathique, on voit que ça apporte beaucoup à la société. On pourra peut-être en parler. Et donc, ça met en avant aussi des exemples concrets dans les collectivités. Et par ailleurs, il y a un palmarès des villes vertes qui est édité tous les 3 ans. Et la prochaine édition est en préparation. Les villes peuvent répondre pour les 50 plus grandes villes de France. Et ce sera publié après les élections municipales. Parce que c'est bien d'alimenter les programmes, mais nous sommes dans des sujets concrets. Ouais. C'est bien de se tenir auprès des collectivités pour le jour d'après, pour savoir comment on va faire pour, comme vous le dites, accélérer la végétalisation et la renaturation de nos villes.
Alors justement, on va en parler dans quelques instants. Juste avant, une petite question peut-être sur le salon. On va prendre la température côté UNEP. Qu'est-ce que vous retenez de ce salon? Qu'est-ce que l'UNEP retient de ce salon?
Alors on retient un grand engouement pour nos sujets et véritablement je pense cette bascule qui est en train de se faire entre des sujets qui étaient très peu considérés il y a encore une vingtaine d'années, qui sont devenus des sujets d'une forme de sympathie parfois un peu condescendante en disant tiens c'est sympa ce que vous faites, d'être un petit peu, on a coutume de dire les bonhommes verts, voilà une caution quelque part, à véritablement quelque chose qui est pris au sérieux. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on se prend au sérieux, il faut toujours être léger, surtout vu l'actualité, mais quelque chose qui a de l'épaisseur et qui a un véritable impact pour la société. Le slogan de l'UNEP, c'est « Chaque jardin compte ». Et si on veut résumer, et ce salon ne fait pas exception à la règle, ça nous conforte dans cette idée, pour la biodiversité, dont on parle beaucoup, pour le climat, notamment l'adaptation, la gestion de l'eau, les îlots de fraîcheur, etc. Mais aussi pour la santé et le lien social, chaque jardin compte. Biodiversité, climat, santé, c'est vraiment 3 choses très très fortes. On sent qu'on a une écoute plus importante et petit à petit, les jardiniers, qui sont souvent des gens taciturnes et très discrets, très humbles, deviennent de plus en plus audibles et interrogés comme étant des parties prenantes incontournables quand on parle de renaturation des villes. Et d'aller chercher plus de résilience, de créer du lien entre les citoyens, beaucoup plus que de les opposer. Il y a des sujets pour se déchirer qui sont hélas très nombreux. L'espace vert apaise et on a besoin de ça. Et les édiles et leurs équipes ont besoin de solutions concrètes pour le faire.
Et d'ailleurs, vous avez publié une étude, enfin, vous avez, avec Asterès, hein, je crois que c'était l'année dernière.
Absolument.
Qui est assez justement intéressante, hein, qui est très frappante avec des. C'est assez factuel, hein, c'est chiffré. C'est vraiment les espaces verts, la végétalisation en ville, ça réduit le nombre de décès. Hein,
c'est pas, 22 000 vies sauvées en équivalent en 2023.
Les problèmes de santé, tout ce qui va avec.
Hein, que ce soit physique ou mental.
Ouais, exactement.
Bon, on le sait, pratiquer une activité physique régulière, c'est important, mais on le fait préférentiellement dans des espaces de nature. Même si la ville est dense, on a besoin de ces espaces de respiration. La période de Covid, c'était il y a 5 ans, on a tendance à l'oublier, mais beaucoup de nos concitoyens, quel que soit leur niveau social, bravaient ce confinement pour aller marcher, courir, et c'était dans des espaces verts. Donc on a besoin de ça d'un point de vue de notre santé mentale, ça a été décrit, il y a eu plusieurs études à Angers notamment, où plusieurs disciplines ont été croisées aux confins de l'agronomie, des sciences du vivant et des sciences de la santé, qui montrent que fréquenter des espaces de nature a un impact sur la santé mentale, un impact positif. Et même maintenant, on peut savoir quels sont les espaces les plus favorables à la santé dans la manière d'aménager un parc, par exemple. Il faut une alternance entre des espaces où on va avoir des buissons, des bosquets pour être dans une atmosphère un peu confinée, plutôt un cocon, mais aussi des perspectives ouvertes, une pelouse. Ça peut sembler anodin, mais une pelouse, un terrain de sport, c'est aussi une vue dégagée. Et la présence de végétal, elle nous relie au vivant. On aura de cesse de le dire, le végétal, c'est vivant, c'est vital. C'est grâce à ça qu'on respire, c'est grâce à ça qu'on peut se maintenir dans des températures acceptables. Ça fait du bien, on vient de le dire, et ça crée du lien entre nous. Ce sont des catalyseurs de liens sociaux.
Ça apaise. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure en préambule, c'est un sujet maintenant qui concerne tout le monde et dont le gouvernement aussi s'en empare. Ce matin, j'ai animé, alors ici sur ce plateau, une émission pour le ministère de la Transition écologique, de l'aménagement et des territoires, de la ville et du logement. Et justement, le thème, c'était comment aménager la santé, aménager les territoires, justement, pour maintenir les Français en bonne santé, et il était évidemment question de la végétalisation. Donc c'est vraiment, il y avait quelqu'un de la ville de Paris qui nous expliquait tout ce qui est mis en place. Donc c'est vrai, c'est vraiment, ça y est, c'est emboîté, tout le monde en a pris conscience, tout le monde le sait maintenant. Les citoyens le réclament, hein, c'est ce qu'ils nous disaient, les Français veulent du vert. Il n'y a plus qu'à.
Et le nom de ce ministère est assez éloquent et cher à Radio Immo et à Radio Territoria, c'est de faire le lien entre le privé et le public. Oui. Ça, c'est un sujet clé pour nous. On a une action collective sous l'égide de l'Observatoire des Villes Vertes qu'on a portée auprès de la Fondation Palladio dans le cadre de l'UVD, l'Université de la Ville de Demain. Il y a eu une cincantaine de candidatures. On a fait partie des 6 lauréats. On a eu la chance de pouvoir pitcher à Versailles en juin 2025. Cette action, elle s'appelle Public-Privé, unis pour plus de nature en commun. Ce qu'on a coutume de dire, c'est que quand un oiseau se pose sur une branche, il ne vérifie pas si l'arbre est planté dans la limite d'une copropriété ou dans un parc public. Lorsque la goutte d'eau, elle va tomber sur le sol, si ce sol est vivant, il va pouvoir lui permettre de s'infiltrer. Elle ne vérifie pas la goutte d'eau si c'est dans le jardin d'un habitat social ou celui d'une rue, d'une collectivité publique. On commence à avoir des chiffres et on va travailler plus avant l'année prochaine là-dessus sur la répartition publique-privée du foncier de nature en ville. Un exemple qui est celui qui a été le plus répandu depuis 2021, ça reste relativement récent, c'est la métropole de Lyon qui a quantifié précisément en disant que 80% des espaces verts de la métropole sont de maîtrise d'ouvrage privée, essentiellement dans les copropriétés et les logements sociaux. Donc, dans le « il n'y a plus qu'à », il y a une mobilisation du logement, qui peut être privé, jusque à la ville, au quartier, qui, lui, est public. Et il faut gommer ces frontières, parce que la nature en ville, elle a besoin de place, notamment de sol, et les réseaux urbains dans les voiries sont parfois saturent ce sous-sol. Et puis, on sait aussi les problématiques de finances publiques. Donc, on a besoin de faire des copropriétés, aussi des relais pour ces sujets. On sait qu'il y a un mur d'investissement dans la rénovation énergétique. On a souvent la réponse du fait que la végétalisation, c'est l'épaisseur du trait. C'est pas une ligne de coût très importante et c'est aussi un moyen d'embarquer des copropriétaires qui ont parfois des choix collectifs difficiles à faire pour se lancer dans des projets de rénovation, bien, le jardin peut être la démonstration de l'adaptation, de l'évolution de la copropriété à de nouveaux standards climatiques pour pas cher. Et ça rapporte beaucoup, si on reprend les chiffres de l'étude Asterès du cabinet de Nicolas Bouzou, pour 100 euros investis dans un espace vert, que ce soit par une collectivité ou un privé, on génère 70 euros d'externalités positives, c'est-à-dire 70 euros qui vont bénéficier à la communauté plus largement que le lieu d'implantation de l'espace vert. Quand on parle de carbone, c'est beaucoup plus large. Quand on parle de gestion de l'eau, de réduction des frais de santé, en fait, investir dans ce sujet-là,
on évite des dépenses
Des dépenses environnementales pour l'assainissement, etc. Donc il faut y aller. Il faut y aller tous ensemble. Faut pas attendre le grand soir et vouloir tout révolutionner d'un coup. Mais on a besoin de la conjugaison de toutes ces forces et de pas trop attendre, parce que le climat s'accélère, parce que une priorité budgétaire en chasse une autre. L'attente sociétale est là. Hein. Plus de 90% des Français plébiscitent le vert. L'UNEP commandite des études avec l'Institut de sondage IFOP. On a eu Jérôme Fourquet qui, cette année, a témoigné en ouverture de cette grande étude qui s'appelle « Les Français et leur jardin ». Ça ne se dément pas. Depuis 2007, on a à peu près le même ratio. Pour 90% des Français, c'est un élément essentiel de leur équilibre de vie. Et là où ça évolue, c'est qu'ils ont de plus en plus nombreux, plus de 80% à considérer que c'est un acte citoyen que d'avoir un jardin, qu'il soit public ou privé, parce que c'est une aide à la lutte contre le réchauffement climatique, en termes d'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation, et puis aussi un geste pour la biodiversité. Donc il faut avancer tous ensemble.
Et les maires dans tout ça, alors est-ce qu'ils sont tous réceptifs? On a beaucoup parlé des maires écolos.
Oui. Ils sont tous écolos, quel que soit leur parti politique.
Ouais. Vraiment, donc l'écologie n'a pas de parti.
De ce point de vue-là, c'est vraiment un sujet qui est transpartisan. Ouais. Alors on sait que cette année, ce sont des élections à couteau tiré.
Oui.
Il y a toujours une difficulté des maires à se relancer pour les sortants. Mais je crois que cette année, on avait atteint dans les déclarations il y a quelques mois un point bas qui est lié probablement aussi au fait que ce sacerdoce d'être élu face à parfois une ingratitude des citoyens que nous sommes avec les réseaux sociaux, etc., les empêchait d'aller spontanément se réengager. On sait qu'il y a des crispations très fortes, des partis, y compris des extrêmes, qui visent l'échelon municipal comme un tremplin pour la scène nationale. Donc tous les coups sont permis, y compris vis-à-vis de sujets liés aux circulations douces, à la piétonnisation, au changement de sens de circulation, et donc la végétalisation est parfois le corollaire de tout ça. Donc il y a des débats âpres, mais on a reçu ici au Salon des maires de gauche, des maires de droite, qui tous sont unanimes sur le fait qu'ils ont besoin de ça, parce que ça crée du lien, beaucoup plus que ça oppose. Donc si on laisse passer la période des municipales avec ces noms d'oiseaux, si je puis dire, même si on reste dans le vivant, on a un consensus fort. Ouais. Et la vraie question, alors que le budget de l'État est en train d'être défini, c'est avec quel budget et surtout comment on fait. Et c'est là où vraiment on a un enjeu, nous les jardiniers paysagistes, toute cette grande famille avec nos confrères paysagistes concepteurs, les architectes du paysage, avec les producteurs de végétaux, et même aussi avec les points de vente, les jardineries pour l'ensemble des particuliers, c'est comment est-ce qu'on devient des tiers de confiance véritablement identifiés par les élus, aux côtés de leur régie publique.
Parce c'est que, pas le cas déjà ?
Si, c'est le cas, mais l'humilité du jardinier, on en parlait juste avant, parfois elle a rendu les professionnels très discrets.
Oui, c'est vrai.
On entend beaucoup parler les ONG qui portent un plaidoyer tout à fait légitime. On a parlé avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, qui porte des combats très très forts pour la défense de la biodiversité. Ben, on a besoin de faire front commun pour que d'un côté on nous alerte sur cet effondrement de la biodiversité qui est réel, mais aussi qu'on puisse, les professionnels, délivrer des solutions concrètes. Et ça, les maires en ont besoin. On a dialogué avec des agences qui sont vilipendées par certains, notamment l'Office français de la biodiversité. On a rencontré Madame la Présidente Sylvie Gustave dit Duflo, qui est aussi vice-présidente de la Guadeloupe, qui nous a invités hier très gentiment à parler avec des élus d'outre-mer. Le retrait du trait de côte en Guadeloupe, par exemple, c'est pas quelque chose pour demain. C'est déjà à l'œuvre depuis une vingtaine d'années. Et on a besoin de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, dont on parlait encore ce matin avec Olivier Thibault, le directeur général de l'Office français de la biodiversité. Les solutions fondées sur la nature, c'est très simple, c'est de dire je protège la biodiversité pour elle-même et en même temps, dans l'aménagement, je vais viser un objectif pour le bien-être humain. Ça peut être l'infiltration des eaux. Et pour qu'on infiltre les eaux, il faut des sols vivants. Donc, pour que ces sols soient vivants, il faut qu'il y ait de l'humus, qu'il y ait de la matière organique. Ça, c'est quoi ? C'est des déchets de végétaux, notamment. Et que je plante ces sols. Donc, on est dans des choses très simples. Infiltrer les eaux, plutôt que de mettre des tuyaux en béton, n'en déplaise à nos confrères du BTP, ça coûte très cher. Ça a un impact carbone très élevé. Une noue paysagère, un aménagement paysager, ça coûte entre 2,5 et 10 fois moins cher. Donc, c'est 10 fois moins pour la collectivité et pour le citoyen. Et ça permet de mieux infiltrer les eaux, là où un tuyau sera toujours trop petit compte tenu des précipitations qu'on a qui sont très fortes d'un seul coup. Alors les ouvrages d'art, gardons-les évidemment, mais pas forcément disséminés partout dans la ville. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un mouvement massif de débitumation, de débétonisation.
Qui concerne tous les territoires.
De plus en plus. On le voit y compris dans les petites communes.
Il y a des territoires réfractaires encore, quelques-uns. Vous en avez, alors sans peut-être pas nous les citer, mais est-ce que vous en avez quelques-uns ?
Il peut y avoir des dilemmes parfois, et c'est vrai que les recettes ne sont pas partout les mêmes. Dynamiser un centre-ville et le commerce de centre-ville, quand vous êtes une bourgade, une sous-préfecture, je pense à Roanne, sous-préfecture du département de la Loire, 45 000 habitants, c'est mon département natal, 100 000 dans l'agglo. Quand vous êtes dans ce territoire-là, vous êtes une vraie centralité. Tout le monde n'a pas de transport en commun doux. Eh bien, il faut pouvoir accueillir la voiture. C'est le parti pris d'un certain nombre d'édiles qui se défend. Donc, vous n'allez pas éjecter la voiture du centre-ville, vous allez plutôt faire en sorte de l'accueillir et de végétaliser des poumons en contrepartie de ces espaces-là, de végétaliser des
linéaires. Donc d'aménager, en fait.
D'aménager. Là où d'autres villes ont des partis pris plus forts parce qu'elles ont un réseau de transport urbain beaucoup plus dense.
Les grandes villes, en fait.
Les grandes villes, voilà. Mais tout le monde se met dans ce mouvement et on est partenaire maintenant du programme EduRénov porté par la Banque des Territoires, donc le bras armé de la Caisse des dépôts, qui montre bien, ils ont fait une étude sur la végétalisation des cours d'école. Donc EduRénov accompagne les collectivités de la crèche jusqu'à l'université, donc les différentes tutelles, dans la rénovation du bâti scolaire. La cour d'école, c'est là aussi l'épaisseur du trait. 60% des projets de végétalisation le sont, si je ne dis pas de bêtises, dans des villes de moins de 2 ou 3 000 habitants.
Oui.
Le gisement, le vivier du marché, il est là. Et il n'y a pas de résistance, il y a une envie d'y aller. Et là où on a tout un travail collectif, c'est de dire « c'est possible pour vous aussi ». Vous avez des projets de transformation de cours de collège avec des réseaux hydrauliques pour stocker l'eau, etc., qui peuvent s'aligner vers 2, 3, 400 000 euros. Mais vous avez aussi, dans une ville de 500 habitants, un projet à moins de 10 000 euros qui va pouvoir permettre de créer un îlot de fraîcheur dans la cour d'école. Il y en a vraiment pour tout le monde, à toutes les bourses, avec des objectifs qui sont plus ou moins élaborés en fonction de la surface, en fonction du nombre d'élèves, etc. Donc il n'y a pas de résistance, il y a juste une envie. Et il faut faire connaître les dispositifs, notamment les dispositifs techniques, comment ça marche, démystifier ce sujet, trouver les bons interlocuteurs. On a édité une brochure, une petite bande dessinée, qui montre qu'il faut s'adresser à son paysagiste concepteur, au paysagiste conseil de l'État, les CAUE, les parcs naturels quand on en a à côté de chez soi, pour défricher le sujet et tout de suite aller voir l'entreprise du paysage, le jardinier, éventuellement le cantonnier, l'équipe communale qui parfois dans les petites bourgades ne fait pas que de la nature en ville, peut faire de la propreté, peut faire un peu tout. Et l'entreprise du paysage, c'est le tiers de confiance, 140 000 jardiniers paysagistes, 33 500 entreprises partout en France, il y en a partout. Il n'y a pas une ville, une petite bourgade où il n'y a pas une entreprise du paysage que l'UNEP fédère et représente vis-à-vis de l'État et de toutes les parties prenantes. Et donc on va voir son entreprise, on lui dit « Tiens, j'ai ce projet-là, j'ai tel budget, comment je fais ?» En fait, il n'y a pas d'opposition, quel que soit le bord politique. Il y a une hésitation parce qu'on ne sait pas comment faire et on se dit « Oh ben non, c'est pour les gros, c'est pas pour moi. » Si, c'est pour vous, parce que derrière, ça change la vie des gens, ça change la vie des enfants. Et dans les métropoles, demain, l'alerte maximale, c'est 50 degrés. Au-delà, ça va devenir très compliqué pour tous les êtres vivants, dont l'espèce humaine. Eh bien, il faut le faire sans tarder. Et une cour d'école, quand on fait lever les barrières administratives, ça devient un refuge climatique pour les personnes âgées, pour les enfants en dehors des heures d'école. Et nous sommes tous les deux parents, Bérénice, pour nous aussi. Parce qu'une canicule, on le voit en Île-de-France, c'est éreintant.
Ouais.
Ça diminue notre productivité. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Et il y a unanimité sur ce sujet-là. La question, c'est comment on fait, et on est là pour aider les collectivités, de même que les privés, à le faire.
Et alors justement, on va parler de l'Observatoire. En quoi l'Observatoire des villes vertes aide concrètement les élus, les maires, à piloter leur politique de nature en ville?
Alors ça, c'est très important parce qu'en fait, l'Observatoire, il va faire fi des différences de taille entre les collectivités. Qu'est-ce qu'on fait? On s'adresse aux directrices, aux directeurs, aux responsables d'espace nature en ville des collectivités, de toute taille. Il y en a à peu près partout. Et on leur dit, voilà, on lance une enquête sur un thème donné. Il y a eu les efforts faits par les collectivités pour engager les parties prenantes privées à végétaliser, que ce soit les particuliers, les copros, etc. Il y a aussi, là, tout récemment, un thème sur les sols. Comment est-ce que les collectivités prennent en compte la dimension des sols? La dernière étude qui a été livrée avant-hier au Salon des Sports, ici même au Salon des Maires, c'est sur le zéro pesticide appliqué aux terrains de sport. On sait que c'est très compliqué de concilier la jouabilité des terrains avec des espèces particulières et zéro pesticide. 96% des collectivités sont dans les clous. Ça, c'est génial. Et l'Observatoire dit, dites-nous ce que vous faites. On vous pose 10 questions, très simples, dites-nous ce que vous faites. Et ça a deux vertus. Ça nous donne des chiffres sur des tendances et ça révèle des pratiques qui sont menées dans des petites comme dans des grandes communes. Et là où c'est génial, c'est que d'ordinaire, on a une vingtaine de réponses de communes de taille très variée, de 2000 à 2 millions d'habitants, pour prendre la capitale, qui répond souvent. Et on a aussi des privés qui répondent, des bailleurs sociaux.
Ah oui.
Et je rêve que les copros, je crois qu'il y a le congrès de la FNAIM bientôt, que les copros s'en saisissent.
Imo.
Venez nous voir.
Eh bien oui, c'est vrai que ce serait hyper intéressant. Alors justement, donc l'Observatoire, vous l'avez dit en préambule, il est mené deux fois par an, tous les six
deux
mois.
Deux enquêtes, oui.
Quelles sont les trois tendances de fond des deux dernières, des deux derniers résultats?
Pour moi, les trois tendances de fond, c'est une prise en compte unanime de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant et de la prise de conscience que nous faisons partie de ce vivant. Ce qui est quand même pas rien, parce que la biodiversité, on sait qu'elle s'effondre, on le voit, on peut perdre des champs d'oiseaux. On se dit, tiens, on s'en rend compte quand on nous montre des films auparavant. Quand on fait un grand trajet en voiture, nous qui commençons à avancer en âge, quand j'étais enfant, je me souviens de trajets où le pare-brise était rempli d'insectes. Il fallait nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, c'est presque le printemps silencieux. On en a beaucoup moins. Mais la biodiversité, en soi, on peut s'en passer. On peut se dire ça. C'est pour plus grand que soi. Et ça revient partout dans les messages des collectivités. Donc, on sent que c'est quelque chose qui est passé dans les mœurs et auquel ils ne sont plus étrangers. Pourquoi ? Parce que aussi l'État en a fait un sujet de politique publique, notamment avec les atlas de la biodiversité communale portés par l'Observatoire, l'APSUS, l'Office français de la biodiversité et d'autres entités. Donc connaître ce qu'on a autour de soi, c'est hyper important. Donc la biodiversité, on fait pour le vivant non humain, et ça c'est important. La deuxième chose qui est peut-être le plus fort aujourd'hui, c'est le climat. Parce qu'on sait qu'un espace vert, c'est un outil pour mieux gérer l'eau. Et qui dit mieux gérer l'eau, dit mieux gérer son climat local. Je l'ai dit dans une interview récente dans un autre média sur la santé, un arbre, par exemple, c'est à la fois un château d'eau et un climatiseur. Un château d'eau, pourquoi ? Parce que ça contient en permanence des centaines de litres d'eau. Et un climatiseur, pourquoi ? Parce que cette eau, à 90%, elle s'évapore. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Et cette eau, vous ne voyez pas l'arbre pleurer. Vous pouvez voir parfois les tilleuls. Ce qu'on appelle le mielas, ce sont des pucerons. Mais globalement, cette eau, elle passe de l'état liquide dans la plante, donc vous ne la voyez pas, à l'état gazeux dans l'atmosphère. Et ce changement d'état, c'est un phénomène thermodynamique, ça consomme de l'énergie et ça refroidit. Ouais. C'est tout bête. Et ça, on n'a pas de...
D'où les îlots de fraîcheur qui peuvent baisser quelques degrés.
Vous mesurez sur la température des feuilles et l'air ambiant à toute proximité du végétal jusqu'à 15 degrés par rapport à un espace minéral en période de canicule. Et globalement, en moyenne, on gagne 2 à 4 degrés, ce qui est très significatif.
Oui,
et on peut gagner plus en fonction de la manière dont on aménage. Donc, il y a une notion d'adaptation avec le climat. Et puis, le troisième point, c'est la santé et le lien social. C'est vraiment trois tendances de fond. Et on peut mixer tout ça, pas en faisant des choses extraordinaires, mais en pensant les aménagements avec les professionnels. Et ce n'est pas un concepteur et un jardinier qui fait un projet dans son coin. Aujourd'hui, comme tout sujet, on va consulter la population, pas pour lui demander son avis et puis faire autrement derrière. Non, parce que celles et ceux qui vivent les espaces, qui vont faire leur footing, qui emmènent leurs enfants dans l'aire de jeu, c'est vous, moi et tous les autres. On a des avis différents, mais prendre en compte nos souhaits, c'est aussi important. Et ce qui est clé dans un espace vert, c'est pas un espace de nature mis sous cloche, c'est un équilibre entre les deux. Et plus on favorise le contact avec cette nature en ville, qui parfois est mise en scène pour qu'elle nous plaise, il faut pas en avoir peur, parce que un marronnier d'Inde, il a pas son passeport français depuis des décennies, des centaines d'années, c'est pas une plante locale. Mais elle, culturellement, elle est arrivée en France au XVIIe siècle, au Jardin des Plantes, sur un tas d'ordures, voilà, liées aux conquêtes peut-être coloniales, mais aussi aux découvertes botaniques qui sont allées avec. Ça fait partie de notre histoire. Et puis, elle a des grandes feuilles, cette plante. Donc, elle va délivrer un service climatique, une ombre rafraîchissante plus importante. Et elle a le droit de citer à côté des végétaux locaux qu'on va laisser pousser spontanément ou qu'on a cultivés exprès. C'est un équilibre, en fait, un espace vert urbain. Et connaître ça, c'est un point de repère pour que nos enfants, on leur promet des jours assez sombres, notamment en termes de belligérance, pour ne pas dire la guerre, voilà, apprendre à avoir des lieux où on se connecte à ce qui nous relie tous, c'est le fait d'être vivant. Les êtres humains sont tous vivants, comme les animaux. Ça peut sembler très gentil ou bisounours, mais c'est hyper important pour essayer de nous apaiser et de nous relier à cette nature, parce que quand on a un smartphone, qu'on veut en changer juste pour en changer et qu'on va consommer des terres rares, on va détruire des espaces de nature, de biodiversité, où là, il est extrêmement dangereux de les laisser filer parce qu'on ne la retrouvera plus. Une espèce qui a disparu, elle a disparu pour toujours. Donc, avoir ce contact de nature en ville, c'est aussi important pour prendre conscience dans quel monde on est et se faire du bien à l'instant T, et puis aussi essayer de penser sur le temps long. Et le jardinier, quand il plante un arbre, il va attendre beaucoup d'années avant qu'ils produisent une ombre rafraîchissante. Nos collègues, nos confrères, les pépiniéristes et les horticulteurs, quand ils font le choix de planter une essence d'arbre dans leur champ, dans leur pépinière, ils ont 15 ans d'avance. Mmh. Les arbres qui sont plantés dans nos villes, ils ont déjà 15 ans. Donc, ça apprend à faire des choses sur le temps long, ce qu'on n'a pas forcément. Hélas, nos politiques sont soumis à la frénésie des réseaux sociaux et de la succession des élections. Donc, se réancrer dans le temps, se réancrer dans l'espace, c'est aussi ça. C'est peut-être moins factuel que des chiffres sur la réduction des îlots de chaleur, mais ça fait aussi partie du sujet.
Alors, le palmarès, justement, des villes vertes est très suivi. Et là, le dernier classement, donc, placé Angers en tête,
oui,
suivi de Rennes, Strasbourg.
Oui.
C'est le top 3.
C'est le top 3. Alors, le palmarès, il a un principal objectif, c'est pas forcément le classement. Vos confrères des médias généralistes aiment les classements, et c'est un petit peu un levier pour sensibiliser les rédactions au fait que les villes ne sont pas étrangères à ce sujet. La preuve, elles jouent le jeu de se comparer les unes aux autres. Mais ce qui est important au fond, c'est d'en être, de faire partie de ce classement, parce que ça met en visibilité, et c'est là où les journalistes, les blogueurs, les influenceurs et les citoyens vont regarder vraiment, c'est des exemples concrets qui ont été mis en œuvre dans les collectivités. Donc on se sert de ce classement qui ne met en avant que les 10 premiers parmi les 50 plus grandes villes de France. Donc les 50 plus grandes villes de France peuvent candidater. Je ne devrais pas le dire trop fort, mais si vous n'êtes pas dans les 50, candidatez quand même, parce que c'est hyper important. C'est une question de coût de traitement des données, mais on pourra en faire notre affaire. Et ensuite, les 10 sont mis en avant. Mais surtout, on va regarder par thématique comment elles se débrouillent et quels sont les exemples concrets qu'elles ont mis en œuvre. Une collectivité, par exemple, a un hôpital dans l'est de la France qui avait une grande bande de terre dont ils n'avaient pas d'usage. Eh bien, ils ont fait un partenariat avec la collectivité pour planter et créer un nouvel espace vert ouvert à tous. C'est de la collaboration publique-privée, alors en l'occurrence entre un établissement public et la collectivité publique, ça peut être public-public d'ailleurs, pour augmenter la place du vert en ville. Et ça, ben, l'observatoire, que ce soit par les enquêtes ou le palmarès, permet de révéler ces pratiques. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et c'est en cela que ça aide les collectivités, c'est de repérer, pour faire un clin d'œil à une autre organisation, des trucs qui marchent. Nous, c'est des trucs qui poussent, qu'on met en avant avec l'observatoire. Un truc qui pousse dans une commune de 2000 habitants peut inspirer une métropole, ça s'est déjà vu, et vice-versa. Le permis de végétaliser, dont on parle beaucoup dans les métropoles, il est né d'abord dans des petites communes.
Ah oui.
Et ensuite, Rennes, il y a 20 ans, en a fait quelque chose d'intitulé. Paris l'a repris il y a quelques années. Et aujourd'hui, il y a des communes de taille moyenne qui le reprennent. Et c'est tant mieux. On ne va pas jouer à qui a eu l'idée le premier. Mais ça, c'est lié à l'observatoire. On observe ce qui se passe. Dites-nous ce que vous faites et les autres vont le savoir. Parce que parfois, on a le nez dans le guidon, les élus comme les privés, comme les
citoyens. C'est bien de se comparer, de voir ce qui se fait.
Exactement, c'est ça la principale vertu.
Alors Pierre, si vous aviez pour finir un message, le message peut-être de l'UNEP à faire passer aux maires.
Eh bien, continuez sur cette voie de la végétalisation, c'est essentiel à la vie de vos communes et de vos citoyens. C'est un investissement, certes, mais beaucoup moins onéreux que d'autres solutions très techniques et très coûteuses d'un point de vue pécunier et environnemental. Et surtout, ça rend des services sur le temps long, ça rapporte, et ça rapporte aussi d'un point de vue électoral. Et faites-le avec nous, avec les professionnels qui sont là à votre écoute. Ils sont discrets, mais on va se faire entendre. On est plutôt à proposer qu'à opposer ou à protester. Vous ne voyez pas les jardiniers sortir non, ça, avec sûr. Les taille-haies ou les tronçonneuses pour protester. Pas... Et pourtant, parfois, on les enquiquine. Notamment un petit sujet là, du ministère des Comptes publics. Mais on a bon espoir que ce ne soit pas retenu dans le projet de loi de finances, quelle que soit la manière dont il sera adopté. C'est la réduction du crédit d'impôt pour les services à la personne. Voilà, le plafond aujourd'hui est à 5000 euros. Certes, ça peut interpeller des personnes aisées, mais il y a aussi, c'est d'abord et avant tout un sujet pour les classes moyennes. Ça rapporterait 200 millions de l'ABC à 2000 euros avec deux autres prestations, mais on détruirait près de 10 000 emplois. Les jardiniers, c'est d'abord des TPE et des PME. Donc, oui. Mesdames et messieurs les maires, défendez avec les parlementaires ce sujet-là. Allez voir vos jardiniers. Le bon jardinier, c'est des femmes et des hommes qui sont là partout près de chez vous pour vous aider à végétaliser et à renaturer vos villes. Il n'y a pas à aller chercher très très loin, c'est eux qui vont pouvoir vous dire avec qui le faire, le concevoir. Et eux, derrière, ils vont assurer quoi ? Un élément hyper important, c'est la gestion dans le temps. Ils ne vont pas vous faire faire des choix pour l'instant T et après ils s'en vont. Non, ils savent que quand ils plantent un arbre, ils plantent un potentiel et c'est un temps long. Donc c'est un tiers de confiance qui va passer d'équipe municipale en équipe municipale. Donc investissez, c'est un phénomène de société. Et deux, faites-le avec nous. On est là dès maintenant et une fois que les édiles seront en place et leurs équipes aussi au printemps pour gérer le jour d'après et faire avec eux une ville plus verte et plus vivable.
Eh bien voilà, défendons nos jardiniers. Merci beaucoup Pierre Darmet. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales à la porte de Versailles sur Radio Immo et Radio Territoria. À tout de suite.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.